Bon,
alors, vous avez votre drink, votre parasol, vos écouteurs, vos coussins, le sel est à off, bon, qu'est-ce qui pourrait bien vous manquer? Ah, mais oui, suis-je bête, un livre audio, ben ça tombe bien, j'en ai plein à vous proposer durant cette émission. Des livres plein les oreilles, en vacances. Alors cette semaine, commençons par la première partie. Tiens, commençons d'ailleurs par vous dire mon nom, pourquoi pas. Hein, pour ceux qui l'ignoreraient, vous êtes, peut-être que vous écoutez cette émission-là pour la première fois. Eh bien si c'est le cas, ben merci, bravo, faites le savoir. Puis si vous êtes des fidèles, merci beaucoup. Je m'appelle Clotilde Say, j'anime et je réalise pour vous cette émission-là, appuyée par mon camarade Mathieu Tessier. Alors cette semaine, en première partie, Michel Tremblay sera à l'honneur. Lui qui nous a fait la joie de ses offrandes musicales il y a quelques années. Et ça existe maintenant en audio, sinon j'en parlerai pas. Les belles-sœurs sont ou seront très prochainement sur nos écrans de cinéma cet été. Là aussi, ça va certainement faire un tabac avec la kyrielle de comédienne qu'il y a là-dedans. Et vous savez que les belles-sœurs ont fait l'objet d'un essai de Mario Girard que j'ai eu bien du plaisir à réaliser. Alors on va écouter des extraits de tout cela, ainsi que de Hotel Lonely Heart de Heather O'Neill, cette écrivaine francophile canadienne. Qui s'inscrit dans la rubrique « Tiens, le livre que je pourrais relire plusieurs fois ». Voilà. Et puis une nouveauté, une grande nouveauté, un polar immense signé Robert Galbraith. Et exactement le genre de bouquin à se glisser dans les oreilles quand on est en vacances. Après, en seconde partie, il y aura du rire, du Walt Disney, du frisson, que du plaisir garanti en audio. Alors, Michel Tremblay, pour commencer. Oui, il y en a en audio très peu, mais il y en a. Ça a été fait par audio, donc par les livres audio de Radio-Canada. Michel Tremblay, bon, vous savez, il y a cette grande série qui est très mémoriale. Les vues animées, 12 coups de théâtre, un ange cornu avec des ailes de tôle, bonbon assorti, conversation avec un enfant curieux et d'autres. Tous ne sont pas encore en audio, mais... Offrande musicale, oui. Michel Tremblay qui a souvent fait entendre, vous savez, des airs en sourdine de tous ces récits que nous adorons. Eh bien, ce nouveau livre, Offrande musicale, ça rassemble une douzaine de petits et de grands bonheurs musicaux. Et aussi d'ailleurs quelques déceptions. Alors on va de Puccini à Barbara, de Verdi à Brahms, jusqu'au Lac des Cygnes de Tchaïkovski. C'est comme un bouquet de souvenirs qui se conclut en plus par deux délicieuses codas fictionnelles dans lesquelles la duchesse, vous savez, ce fameux personnage fétiche de l'univers de Tremblay, assiste à un concert d'Édith Piaf. Mais c'est une vraie déconvenue. Alors, on écoute un extrait d'Offrande musicale de Michel Tremblay. C'est lu par Gilles Renaud.
À mon retour de Floride, je me suis enfermé chez moi pendant 14 jours. Pandémie oblige. Des amis, parmi eux mon chum, toujours masqué, venaient me porter de la nourriture, celle que j'avais commandée, et ce qu'ils appelaient des surprises, la plupart du temps des desserts faits maison ou achetés chez les meilleurs fournisseurs. Je concoctais des choses parfois infâmes, parfois à peu près décentes, toujours quelconques. Je regardais ça, des ragoûts trop bruns, des pâtes trop pâles, l'ennui dans votre assiette, et me jurais que la quarantaine terminée, je m'empiffrerais sans vergogne dans mes restaurants favoris. Des Asiatiques, des Italiens, des Libanais, ce ne sont pas les bonnes adresses qui manquent à Montréal, au lieu de la grande cuisine en Amérique du Nord et où, au fil des années, j'ai dépensé des fortunes. En attendant, je me jetais dans les sucreries les plus indécentes en me disant que c'était là la seule compensation à ma solitude. L'une des seules, en fait. il y avait quand même la lecture et la télé. Les Thibault, par exemple, auxquels je ne m'étais jamais attaqué, que j'avais acheté jadis dans une édition de luxe et qui me grugeaient de longues heures, de grandes parties de journée. Netflix, les différentes plateformes culturelles auxquelles je m'étais abonné, Mezzo, Classica, Marquee et plusieurs autres qui m'accompagnaient dans des soirées désespérantes. Des pansements que j'espérais temporaires, ce que je voyais et entendais au téléjournal chaque soir ne me rassurait guère sur le proche avenir, et qui ne me satisfaisait pas totalement pour la simple raison que je n'avais pas le choix. Lire quand on le veut, se lever de son fauteuil si on en a assez pour aller baguenauder ou sauter dans un taxi pour se rendre à un cinéma est un vrai choix. Mais se taper les Thibault parce qu'on n'a rien d'autre à faire, c'est autre chose. Même si l'œuvre est magistrale. Vers le milieu de la deuxième semaine, j'avais décidé de revisiter mon impressionnante collection d'opéras sur DVD, grosse de plusieurs centaines de productions des plus grandes maisons du monde et même d'obscurs théâtres de province qui se payaient le luxe d'enregistrer leurs spectacles souvent étonnants d'inventivité malgré le maigre budget dont ils disposaient. J'avais comme principe, allez savoir pourquoi, de ne jamais regarder un spectacle deux fois, à quelques exceptions près des choses, l'œuvre elle-même, l'interprétation ou la mise en scène qui m'avait jeté par terre. Mais pour passer le temps, pour le tuer, je pensais à bout portant, j'étais monté un après-midi à la mezzanine de mon appartement et m'étais planté devant le pan de mur de DVD acheté depuis près de 20 ans. Mais lequel choisir? Comme toutes les opera queens, je n'ai aucune honte à avouer que j'en suis une, j'avais mes favoris. Des chanteuses, des chanteurs, des metteurs en scène, des chefs d'orchestre qui savaient aller chercher en moi ce qu'il y avait de plus sensible, de plus vulnérable et que je laissais, avec un plaisir presque masochiste, me manipuler, me noyant avec délice dans leur façon d'interpréter un rôle, de moduler une phrase musicale ou d'éclairer une scène particulièrement émouvante sous un jour nouveau. Je n'avais rien contre ce que les Américains appellent l'Eurotrash, cette école venue d'Europe de l'Est qui veut tout revoir de l'opéra, surtout les livrets, parfois absurdes et ridicules, à condition que le metteur en scène n'ait pas eu l'intention d'assassiner l'œuvre, ce qui, hélas, était trop fréquent. L'Iphigénie en tauride de Varlikovsky, qui se passait dans une maison de vieillards. Bon, pourquoi pas?
On va rester avec Michel Tremblay et la pièce « Les belles sœurs ». Née le 4 mars 1968, lors d'une lecture publique, faut-il le rappeler, dans un minuscule théâtre de la métropole. 50 ans après sa création, le journaliste que vous connaissez peut-être, Mario Girard, journaliste chroniqueur de La Presse, raconte cette histoire, raconte la genèse, la naissance et tout ce qui est venu avant de la pièce « Les belles-sœurs » de Michel Tremblay. Tout ce qui a entouré en fait la naissance de cette œuvre majeure. Il y a des témoignages, il y a des documents d'archives, il y a des photographies. On découvre par exemple comment un jour de 1965, l'idée est venue au jeune Tremblay d'écrire une pièce en joual. Avec 15 femmes, dans une cuisine, autour d'un million de timbres prime Gold Star. À l'époque, l'équipe de Vues et Voix m'avait fait confiance en me confiant la réalisation de ce livre audio-là. Imaginez 27 voix, 27 comédiennes et comédiens parmi ceux qui apparaissent et qui figurent et qui témoignent dans le livre de Mario Girard, qui ont accepté gracieusement de se déplacer pour que leurs mots prennent vie en studio et donc en audio jusqu'à vos oreilles. C'était d'autant plus émouvant que certaines de ces voix nous ont quittés depuis. Je pense notamment à Michel Rossignol et Monique Mercier.
Bonjour Michel, c'est Denise Filiatro. Mais Michel, je te remercie d'avoir écrit une si belle pièce, des si beaux personnages, de nous avoir décrit, nous autres, du Québec, tel qu'on était. Je t'embrasse et je t'en remercie infiniment.
Avec l'enthousiaste complicité de Marie-Thérèse Fortin, Muriel Dutille, Michel-Marc Bouchard, Serge Boucher, Sophie Cadieu, Patrice Cocro, Angèle Coutu, Martin Fauché, Denise Filiatro, Maude Guérin, Émile Gaudreau, Yves Jacques, Diane Jules, Robert Lepage, Monique Mercure, Daniel Lorrain, Béatrice Picard, Lorraine Pintal, Luc Provost alias Mado, Pierrette Robitaille, Michel Rossignol, Francine Ruelle, Guylaine Tremblay et Michel Tremblay.
Je ne suis pas un professeur de français, je suis un témoin de mon époque et mon rôle, c'est de répéter ce que j'entends.
Je m'esquinte, je me désarme, je me tue. Comme
je me tue dimanche, on sort en famille.
On va souper chez la belle-mère.
On va souper chez la belle-mère en autobus.
On guette les enfants toute la journée.
On vous mangez la nourriture de la belle-mère qui est donc meilleure que la mienne, au dire de tout le monde.
On regarde la télévision.
Le soir, on regarde la télévision.
Je suis tannée de mes maudites plates.
Avant propos, Les Belles-Sœurs sont une œuvre de jeunesse. Elle a des défauts, elle a un côté trop plein. Son auteur est le premier à le reconnaître. Mais cette pièce est aussi le fruit d'un formidable et rare élan créatif comme seule la jeunesse en est capable. C'est ce qui la rend forte, c'est ce qui fait d'elle aujourd'hui la pièce québécoise la plus jouée dans le monde. Quand elle écrit Les Belles-Sœurs, Michel Tremblay a 23 ans. Son ami, le metteur en scène André Brassard, précieux artisan de la création de cette œuvre, en a 19. Les deux jeunes hommes, issus de milieux ouvriers, partagent la passion du théâtre. Leur rencontre est celle de deux astres. Cette œuvre, symbole de renouveau et d'affranchissement, est née le plus simplement du monde. Et c'est le plus simplement et naturellement du monde que Tremblay ira vers cette langue qu'il entend depuis la naissance, depuis ses instants passés dans la cuisine familiale, depuis ses jeux dans la ruelle, celle qui se trouve derrière la rue Fabre, dans le plateau Mont-Royal, pour écrire sa pièce. Dans les années 1960, le cinéma, le théâtre et la télévision sont, pour les spectateurs québécois, un monde sublimé, encore loin de leur réalité. Pour Michel Tremblay, cela sonne faux. Il lui apparaît normal de transposer son vrai monde sur une scène et de le montrer tel qu'il est réellement dans la vie. Cette langue que tous connaissaient et dans laquelle une majorité s'exprimait va pourtant choquer et scandaliser une fois déclamée sur scène. Le soir du 4 mars 1968, lors d'une lecture publique dans un minuscule théâtre pouvant à peine contenir 90 personnes, cette œuvre majeure de notre dramaturgie est née. De la bouche de 15 femmes réunies autour d'un party de timbres primes, des mots durs, crus et vrais se sont envolés. Et une rage, une terrible rage, s'est fait entendre. Quelques mois plus tard, ce joual que plusieurs ont maudit et continué de maudire se faisait entendre dans un théâtre sérieux. Nous n'étions plus dans un spectacle de burlesque ou une revue de fin d'année. Nous étions au théâtre du Rideau Vert. Cette rencontre entre une œuvre formidablement bien écrite qui emprunte un peu à la tragédie grecque, un théâtre considéré comme le plus bourgeois de Montréal et le joual va créer ce que Tremblay appelle un maelstrom dont la société québécoise avait grandement besoin. Arrivée au bon moment, cette pièce a donné à ceux qu'on appelait encore des Canadiens français la permission de s'exprimer avec leurs mots à eux. Michel Rossignol témoigne.
C'est difficile d'imaginer aujourd'hui le choc que nous a procuré la lecture de ce texte. D'abord, le langage théâtral maîtrisé dans une langue qui est la nôtre. L'amour et la peine contenues dans les dialogues et les monologues. La déconstruction de la forme traditionnelle, mais surtout, surtout, l'hommage fait aux femmes de chez nous.
C'est tellement touchant. Je revois Madame Rossignol, aveugle, accompagnée par son chum à l'époque, à qui j'avais proposé de faire ça par téléphone, compte tenu de son état de santé, qui m'avait dit « Non, 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 madame, je viens en studio. » Et de la voir arriver si frêle, avec ses beaux yeux bleus qu'il ne voyait plus. Mais c'est, en tout cas, ça fait partie des moments très, très touchants. Un livre que j'espère que vous découvrirez en audio pendant vos vacances. Un autre que j'espère que vous allez découvrir, celui-ci, je le connais bien, c'est Hotel Lonely Heart. C'est signé Heather O'Neill. J'aime tellement cette autrice canadienne, là, mais très francophile. C'est lu par Alice Pasquale. On est dans un orphelinat de Montréal, à une époque incertaine, mais c'est pas très contemporain. Vous savez, à l'époque où toutes les filles s'appellent Marie, tous les gars s'appellent Joseph. Et parmi la grisaille de ses enfants abandonnés, elle fait briller deux étoiles qui sont Rose et Pierrot, deux orphelins qui vont se produire en spectacle devant la grande richesse, la haute pété montréalaise. On est pendant les années folles. Alors lui joue du piano, elle danse, ils rêvent de fonder ensemble le plus grand cirque du monde. Mais la dépression est cruelle aux rêveurs. Et pourtant, ils vont continuer de chercher à se réunir au clair de lune. Oh, les passages avec la lune qu'ils font descendre sur scène, entre autres. Écoutez, c'est d'une grande magie. Cette histoire du grand cirque ordinaire qu'est la vie. Et ces personnages mais qui m'ont marqué mais pendant des années. Je l'ai lu deux fois et je vais vous dire une chose, je vais le relire. C'est certain. Bah oui, ça fera jamais que trois fois.
En ce jour de 1914, une très jeune fille frappa à la porte de l'hôpital de la Miséricorde. Potelée, elle avait des joues rondes comme des pommes et des boucles blondes. Elle n'avait que 12 ans. Son cousin plus vieux, Thomas, avait traversé l'océan pour aller se battre en France. Elle était folle de lui depuis sa plus tendre enfance. Il était plein de fantaisie. Il savait marcher sur les mains et il l'emmenait voir des orchestres dans le parc le dimanche. Il était courageux et lui répétait sans cesse qu'il serait soldat un jour. L'hiver précédent, il s'était présenté chez elle dans son bel uniforme et lui avait dit qu'il lui ferait passer un examen médical pour voir si elle était apte au service, comme les garçons. Elle était très curieuse de savoir si elle aurait pu elle aussi être soldat, si elle était née garçon. Il avait dit qu'il devait enfoncer son pénis en elle pour prendre sa température interne. Quand il avait eu fini, satisfait de la trouver en parfaite santé, il lui avait donné un petit ruban rouge tombé d'une boîte de gâteau qu'il avait épinglé sur sa veste comme une médaille en reconnaissance du grand service rendu à sa patrie. Quand l'archiduc François Ferdinand fut assassiné, Thomas pria pendant des mois pour que le Canada déclare la guerre afin d'échapper à sa cousine enceinte. Ses parents l'envoyèrent à l'hôpital de la Miséricorde. Tous les jours, des jeunes filles enceintes faisaient la file devant l'hôpital avec leurs gros ventres qu'elles ne pouvaient plus cacher à leur famille. On les avait mises à la porte. Certaines avaient eu le temps de faire leurs valises, d'autres avaient simplement été tirées par les cheveux et jetées à la rue. Des filles arrivaient avec la main de leur père étampée sur le visage, s'efforçant de cacher leur bleu sous leur joli boudin blond ou leur chevelure noire et lisse. On aurait dit des poupées de porcelaine tombées en disgrâce auprès de leurs enfants. Ces jeunes filles avaient gâché leur vie entière pour 5 minutes plaisantes dans un escalier de secours. Maintenant, un étranger dans le ventre, elles avaient été envoyées se cacher par leurs parents. Tandis que les jeunes pères continuaient à vaquer à leurs occupations, se balader à bicyclette et sifflaient dans leur bain. C'est pour cela qu'on avait construit cet édifice, par immense bonté pour ces misérables gueuses. Les bonnes sœurs donnaient de faux noms aux jeunes filles quand celles-ci franchissaient les grandes portes de l'hôpital de la Miséricorde. Elles affirmaient que ces noms visaient à protéger les filles, mais il avait aussi manifestement pour but de les humilier et de leur rappeler leur nouveau statut de pécheresse. Les filles étaient renommées Chasteté, Salomé et Déplorable. Baptisée Ignorance par les religieuses, la fillette aux joues comme des pommes fut bientôt connue sous le nom d'Iggy. Elle se fichait bien d'avoir dans ses entrailles le paquet le plus précieux du monde. Un jour, elle se battit contre un chat. Un autre jour, elle sauta de lit en lit comme si c'était des plaques de glace sur l'océan. Elle faisait la roue dans le corridor. Les religieuses tentaient de leur mieux de l'en empêcher. Il leur arriva de se demander si elle était d'une naïveté extraordinaire ou si elle s'efforçait de provoquer une fausse couche dans le fol espoir de pouvoir sortir de l'hôpital plus rapidement. Quand son bébé naquit bleu, personne ne s'en étonna. Il ressemblait à un mort-né. Le médecin prit son pouls. Pas un son ne montait de la poitrine du garçon. Le médecin mit la main devant sa bouche pour détecter un souffle, mais il n'y avait rien. On laissa le bébé sur la table, les bras de chaque côté du torse. Les jambes arquées s'écartèrent. Le curé ne savait pas ce qu'il advenait de ses bébés dans les limbes. Il agita son rosaire au-dessus du petit corps, accomplit les rites funèbres. Puis il tourna le dos. Il emporterait le bébé dans la grande sacoche qu'il gardait expressément pour ces occasions. Il le ferait enterrer derrière l'église dans une boîte à pain. On n'avait nul besoin de cercueils raffinés pour ce genre de mort. Et puis, étrangement, de façon presque surréelle, le pénis du garçonnet commença à se dresser droit dans les airs. Et puis le bébé toussa, émit un cri, la couleur gagna sa peau et ses membres tressaillirent. L'érection l'avait ramené de chez les morts. Le prêtre n'était pas sûr d'assister à un miracle. Était-ce l'œuvre de Dieu ou l'œuvre du diable? Quand la bonne sœur de l'hôpital de la Miséricorde amena le bébé Diggy à l'orphelinat pour qu'il y passe le reste de son enfance, elle recommanda aux religieuses de faire attention à lui. Sa mère avait été une fautrice de troubles. Et même s'il était encore un bébé, elle était certaine que quelque chose clochait chez ce petit garçon. Un chat noir qui se trouvait au pied de la religieuse les suivit à l'intérieur. Comme tous les garçons de l'orphelinat étaient baptisés Joseph, il fallait leur trouver des sobriquets. Les religieuses surnommèrent le bébé Pierrot, en raison de sa pâleur, et parce qu'il avait toujours aux lèvres un sourire un peu niais.
C'était un extrait de Hotel Lonely Heart, lu par Alice Pasquale, écrit par Heather O'Neill. On va finir avec... Avez-vous lu la série Cormoran de Robert Galbraith, alias J.K. Rowling? Eh bien, c'est le numéro 6 qu'elle nous annonce. En fait, il est déjà sorti sur papier et même déjà en audio. Pas la peine que je vous raconte l'histoire, vous allez tout comprendre dans l'extrait qui suit, extrait 2, « Sang d'encre ».
Est-ce que vous avez entendu parler de sang d'encre ? Oui, dit la détective, surprise. Sa cousine Cathy avait mentionné le dessin animé un soir, à Zermatt. Elle l'avait regardé pendant son congé maternité et était devenue accro, sans pour autant savoir si elle trouvait ça drôle ou juste bizarre. C'est sur Netflix, non? Je n'ai jamais regardé. Ok, bon, c'est pas très important. En fait, c'est moi qui l'ai co-créé avec mon ex-petite amie et ça a beaucoup de succès. Eddie parut curieusement tendu en prononçant ce mot. Il va peut-être y avoir une adaptation au cinéma, mais ça n'a aucun rapport avec... Enfin, ce n'est pas pour ça que je suis là, mais c'est juste pour vous montrer que j'ai les moyens de payer. Avant que Robin ne puisse réagir, elle poursuivit. Il y a quelques années, deux fans, j'imagine qu'on peut les appeler des fans, au début en tout cas, ont créé un jeu en ligne dont les héros sont inspirés de nos personnages. Personne ne connaît leur véritable identité. Ils se font appeler Anomie et Morehouse. Anomie est le plus connu et il est très suivi sur les réseaux. Certains prétendent qu'Anomie et Morehouse sont une seule et même personne, mais je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, bref, Anomie, il sait... Je suis sûr que c'est un homme... Il s'est mis en tête de... Elle lâcha un rire soudain, totalement dénué de gaieté. Cela aurait pu être un cri de douleur. De me pourrir la vie autant que possible, au quotidien. Il n'arrête jamais, c'est permanent. Ça a commencé quand Josh et moi, on a donné une interview dans laquelle on nous a demandé notre avis sur ce jeu, et c'est difficile à expliquer. Dans le dessin animé, il y a un personnage baptisé Drake. Je regrette vraiment que ce personnage existe, mais c'est trop tard maintenant. Drake fait jouer les autres personnages à un jeu dont il change constamment les règles et qui se termine toujours mal pour tout le monde, sauf pour lui. Ce n'est pas vraiment un jeu. En fait, il n'y a aucune logique. Il s'amuse juste à faire tourner les autres en bourrique. Donc, dans cette interview, on nous a demandé si on avait vu le jeu d'Anomie et de Morehouse, et on a répondu que oui, mais que dans notre dessin animé, il ne s'agissait pas réellement d'un jeu. C'était plutôt une métaphore. Bon, je suis désolé, tout ça doit vous paraître stupide, mais c'est comme ça que ça a commencé, vous voyez? Quand j'ai déclaré que le jeu d'Anomie n'était pas vraiment le même que celui de Drake dans le dessin animé. Quand l'interview est parue en ligne, Anomie a pété un plomb, et il s'est mis à m'attaquer non-stop. Il a prétendu que toutes les idées venaient du dessin animé, qui n'avait rien changé. Plein de fans ont pris son parti en pensant que je critiquais le jeu parce qu'il est accessible gratuitement et que je cherchais avant tout le profit. J'ai pensé que ça allait se tasser, mais ça n'a fait qu'empirer. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où c'est allé. Anomie a publié en ligne une photo de mon appartement. Il a convaincu les gens que je me prostituais quand j'avais besoin d'argent. Il m'a envoyé des photos de ma mère décédée en prétendant que je mentais sur sa mort. Et les fans croient tout ça. Ils me reprochent des choses que je n'ai jamais faites, jamais dites, des choses auxquelles je ne crois pas. Mais il connaît aussi des détails réels de ma vie, qu'il n'a pas à connaître. Robin voyait que les doigts de la jeune femme, qui serrait les poignets de son sac à main, tremblaient. L'année dernière, j'ai fait une tentative de suicide. Je suis vraiment... Eddie l'interrompit d'un geste impatient. Manifestement, elle ne voulait pas qu'on s'apitoie sur elle. Presque personne n'était au courant. Sauf Anomie, qui l'a su avant que la presse n'en parle. Il savait où j'étais hospitalisé. Il l'a annoncé sur Twitter, en prétendant que c'était une mise en scène pour amadouer les fans. Et puis, dimanche dernier, Josh, le type avec qui j'ai créé Sans d'encre, comme je vous l'ai dit, on était ensemble, mais on s'est séparés. On continue de collaborer sur le dessin animé. Josh m'a appelé pour m'informer qu'une rumeur courait selon laquelle Anomie, c'était moi. Et que j'avais monté ces attaques de toutes pièces pour attirer l'attention et inspirer la pitié. Je lui ai demandé qui m'accusait comme ça, mais il n'a pas voulu me donner de nom. Il s'est contenté de répéter ce qu'on lui avait raconté. Et il voulait que je lui dise droit dans les yeux que ce n'était pas vrai. J'ai explosé. Comment est-ce que tu peux penser une seule seconde que ça pourrait être vrai, putain ?
Et celle qui parle par la voix de Perrine de Philippe Résimont, on va la retrouver morte quelques jours plus tard. Voilà, un polar qui dure 30 heures. Autrement dit, si vous avez 2 semaines de vacances à raison de 2 heures par jour, vous pourrez passer au travers. C'est Clotilde Saé qui vous accompagne à cette émission des livres plein les oreilles, édition de vacances. Ben voilà, on se retrouve dans 2 minutes. Alors en seconde partie de cette émission, pour se souvenir que Frédéric Dard, ce n'est pas que des San Antonio, et aussi pour se souvenir de l'admirable Jeanne Moreau qui campait la vieille qui marchait dans la mer, eh bien nous entendrons un extrait du livre audio. Pour les plus jeunes, ce sera ensuite Martine qui va apprendre à nager. Quelle série incroyable, j'ai hâte de vous en reparler un petit peu plus tard. Et puis puisqu'on est avec la jeunesse, j'ai découvert que les chefs-d'œuvre de Disney avaient été enregistré il y a maintenant quelques années chez Audiolib. On va écouter un extrait du Livre de la Jungle. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi pour vous? Ah ben, pourquoi pas une série québécoise à lire pendant les vacances? Je vous propose Anne, la maison au pignon vert, lue par la comédienne Catherine Proulx-Lemay. Et on va se quitter, si on a le temps, avec Entre fauves, une histoire incroyable, un truc à vous coller le frisson qui se passe à la fois en France, dans les Pyrénées et en Namibie. La vieille qui marchait dans la mer, maintenant, de Frédéric Dard, et qui, comme je vous le disais, n'a pas fait que dans le San Antonio. Frédéric Dard qui a déclaré un jour « Un romancier obéit au papier, un point c'est tout. Pour ma part, lorsque j'ai commencé ce livre, j'avais l'intention d'écrire une histoire cocasse, haute en couleur, celle d'une vieille aventurière qui se donne un dauphin avant de raccrocher et qui le forme à l'arnaque, et qui se donne à un dauphin et qui le forme à l'arnaque. Alors je ne me doutais pas, nous dit Frédéric Dard à cet instant, que j'allais commettre l'ouvrage le plus grinçant de ma carrière, m'enfoncer dans un conte de fées noires à vous en flanquer le vertige et peut-être même dépasser certaines limites. Mais je ne regrette rien quand on est capable de tout Il faut le prouver. Et à l'époque, en tout cas dans le film, c'était à Jeanne Moreau qu'on avait confié le rôle de cette vieille cochonne à souhait, riche à millions et cocasse à mourir. C'était un petit peu difficile sans doute pour la narratrice de nous faire oublier cette grande comédienne, mais elle s'en sort bien. Son nom, Chantal Neuwirth.
Lambert, le jeune plagiste de l'hôtel, l'attend, assis sur un flotteur de pédalo. Il paraît en terre cuite. Ce bel imbécile a cru bon de s'affubler d'une boucle d'oreille qui crée l'équivoque quant à ses mœurs. Mais Lady M sait bien qu'il aime les femmes. La vieille femme débouche sur la plage et Lambert, qui l'aperçoit, quitte le pédalo pour venir à elle. Chaque matin, à 11 heures, ils ont rendez-vous dans le secteur réservé aux embarcations. Le jeune homme offre son bras à Lady M et ils vont marcher dans la mer. La vieillarde conserve sa canne. Ils avancent très lentement sous les regards interdits de nouveaux vacanciers. Ils s'éloignent du rivage jusqu'à ce que Lady M ait de l'eau à la taille. Ce demi-bain fait partie de la thérapie consécutive à son arthrose de la hanche. Au début, Lambert se sentait gêné, craignant de faire rire, mais personne jamais n'a ri de Lady M, malgré ses excentricités. Il s'incline. Mais respect, milady. La vieille dame est charmée par la politesse du plagiste. De leur conversation en haute mer, il appert que Lambert est un fils de bonne famille, épris de liberté. Vous avez bien dormi, milady ? Bien sûr que non, mon petit Lambert. Elle possède un passeport britannique, mais parle un français sans accent. Lady M ajoute cette sentence d'une voix en italique. « Jeunesse qui veille, vieillesse qui dort, sont près de la mort. » Elle ponctue d'un léger rire frileux. « Mais vous n'êtes pas vieille, milady. » Elle regarde le garçon bronzé, ses dents éclatantes, son regard presque vert. « Vous êtes le tigre le plus poli que j'ai rencontré, assure-t-elle. » Comment est l'eau ce matin ? Lady M avance un pied dans l'eau. Elle a l'heureuse surprise de la trouver tiède. Sa patte d'oiseau se crispe sur le bras velu de Lambert. En route ! La béquille sonde le fond de la mer avec prudence, mais Lady M sait qu'elle ne craint rien avec son chevalier servant. La vieille femme paraît ramée. Les véliplanchistes s'écartent d'eux. Ils se déplacent un moment sans parler. Lady M tient dans le creux de sa main droite un billet de 500 francs, plié menu, devenu à peine plus grand qu'un ticket de cinéma. Tout à l'heure, lorsqu'ils auront atteint leur limite habituelle, elle enfoncera sa canne dans le sable, puis se tournera face à Lambert afin de glisser le billet de banque dans son slip. Elle fourrera la coupure sous les testicules du plagiste. Lui, pendant ce temps, contemplera le large.
C'est du grand Frédéric Dard. Ne manquez pas ça pendant vos vacances. La vieille qui marchait dans la mer en livre audio de Frédéric Dard et c'est lu par Chantal Neuwirth. C'est absolument irrésistible. C'est 11h25 de lecture. Martine, maintenant, allez, ramenez les plus jeunes au poste. Martine, oh là là, vous savez que le personnage, pourquoi je dis toujours vous savez, le personnage de Martine a accompagné plusieurs générations de petites filles, dont moi. Et il n'a pas pris une ride en 69 ans d'existence, moi non plus. Alors, c'est un éditeur belge, très catho, Casterman, connu entre autres pour Tintin, qui a créé Martine en 1954 avec le concours de l'auteur Gilbert Delahaye et d'un illustrateur du nom de Marcel Marlier. La littérature jeunesse de cette époque est très sage et très conservatrice. Elle offre une vision très, très traditionnelle et idéalisée de la famille. Et puis, la littérature jeunesse, En même temps, on voudrait contrer les bandes dessinées américaines, du moins celles qui émanent de France, veulent contrer les bandes dessinées américaines, vous savez, que l'on juge vulgaires et violentes. Alors Martine, elle a près de 10 ans, c'est une petite fille bien élevée, souriante, polie, sage, obéissante, etc. Ses parents, maman est au foyer, papa au travail, elle a ses frères, son chien, Patapouf, son chat, etc. Mais ce que j'ignorais, moi, c'est qu'il y a une soixantaine de livres de la série qui se sont vendus à plus de 10 millions d'exemplaires en français et à 40 millions en langue étrangère. Voici un extrait des deux ou trois Martines qui existent en version audio, en livre audio. Celui-ci, c'est Martine apprend à nager.
Martine va prendre son premier cours de natation. Pendant qu'elle se présente à Vincent, le moniteur, les autres enfants caressent Patapouf et jouent avec lui. « Je vais t'inscrire aux leçons du matin », décide Vincent. « Tu seras dans le même groupe que Clara. À la fin de la semaine, vous saurez nager. » Martine choisit une cabine, se met en maillot de bain et rejoint les autres élèves au bord du bassin. Vincent annonce « Les filles doivent porter un bonnet de bain pour protéger leurs cheveux. Mais les garçons, vous pouvez aussi suivre leur exemple. »«
Le mien est trop serré !» souffle Martine.
Heureusement, les autres élèves ont l'air très gentils et n'hésitent pas à l'aider.
« Tout le monde sous la douche !»
Ouh, c'est froid ! S'écrie Martine. Vite, vite ! On se mouille et on se frotte partout.
Un petit garçon asperge Patapouf, qui se secoue aussitôt. Visiblement, ça ne l'amuse pas du tout.
Il déteste être mouillé, confie sa maîtresse.
Quand ils sont propres, les enfants sautent à l'eau. Première leçon, c'est parti.
L'extrait est court, mais les livres aussi le sont. Je pense que les plus longs doivent durer dans les 25 minutes, mais sinon, c'est vraiment des petites histoires. Mais vous devez en avoir quelques-uns, des Martines encore chez vous, pour vos enfants ou vos petits-enfants. Mais je trouve qu'en audio, c'était sympa, en période estivale, de vous diffuser un extrait de Martine apprend à nager, lu par Mélodie Leblay. Ok, puisqu'on est avec la jeunesse, tiens, hein, je me disais, remarquez, les jeunes, il n'y a pas que les jeunes sur qui Walt Disney a une influence. Hein. Combien d'adultes autour de moi rêvent d'aller à Disneyland ou sont allés à Disneyland? C'est vraiment fou. Hein. Voulez-vous un tout petit peu d'histoire pour vous rappeler que le 16 octobre 1923, Walt Disney et sa grande entreprise ont eu 100 ans l'an dernier, le 16 octobre 1923. Donc lui, Walt, et son frère, Roy, c'est eux deux qui ont fondé les studios Disney Brothers sous le soleil chaud de Hollywood. À l'époque, Roy est atteint de la tuberculose. Et mettons qu'il faut lui faire penser à autre chose. Alors, il fonde cette grande maison-là. Mortimer Mouse est né en 1928, mais Lillian, qui est l'épouse de Walt, déteste ce nom-là. C'est pour ça que la souris devient Mickey Mouse. J'imagine en anglais Mickey. J'imagine hein, les Américains disent Mickey. Enfin, nous, c'est Mickey. Bon. Alors, Mickey Mouse, dont les premières aventures sonores seront Steamboat Willie. Tout ça, c'est sorti la même année, c'est-à-dire en 1928. Mais Walt Disney voit grand en 1934. Contre l'avis d'ailleurs de son frère, Roy, il décide de se lancer dans la production du premier long-métrage d'animation des studios, et ce sera Blanche-Neige et les Sept Nains. D'ailleurs, il avait été, revitalisé, ce film-là. On avait remis de la couleur et tout ça il y a quelques années. C'était vraiment sensationnel comme effet. Alors, rapidement, baptisé la folie de Walt, l'homme va hypothéquer jusqu'à sa maison pour financer le projet. Le film a mis 3 ans à sortir des studios et finalement, c'est l'apothéose puisque le titre a engrangé plus de 8 millions de dollars à l'époque au box-office, détenant même brièvement le record de recettes pour un film parlant. Les studios Disney deviennent depuis ce jour une référence de taille et dont le poids ne s'est pas démenti. Heureux soit la descendance. Alors, j'ai trouvé chez Audiolib un livre audio qui s'appelle « Les chefs-d'œuvre de Disney » et on y entend deux personnes d'ailleurs qui vont se présenter en ouverture de cet extrait que j'ai choisi pour vous.
Les chefs-d'œuvre de Disney, lu par Valérie Marchand
et Patrick Donnet. Le livre de la jungle. Dans la jungle profonde de l'Inde, s'avançait Bagheera, la majestueuse panthère noire. Elle s'approchait du fleuve quand un bruit insolite fit frémir ses oreilles. Sur la rive, elle découvrit une barque échouée dans laquelle reposait un petit dôme abandonné. Délicatement, Bagheera saisit le panier avec ses crocs et l'emporta loin du fleuve. Elle avait pris sa décision. Elle le confierait aux bons soins de père loup et de mère louve qui élevaient leurs petits avec douceur et fermeté. Bagheera déposa son précieux fardeau à l'entrée de la tanière de père loup et de mère louve. « Bonne chance, petit dôme, » murmura-t-elle. Le jugement de Bagheera était juste, car mère louve éduqua le petit dôme comme s'il était de sa propre chair. Elle lui donna le nom de Mowgli, qui signifiait la grenouille, tant il agitait ses bras et ses jambes avec vivacité. Les années passèrent, et Mowgli grandit aux côtés de ses frères loups. Aucun fils d'homme n'était aussi heureux que lui. Mais un jour, une terrible nouvelle se répandit. Shere Khan, le tigre sanguinaire, était de retour, impitoyable. Il ne respectait pas la loi de la jungle et aimait tuer pour son bon plaisir. Et quelle proie rêvée qu'un petit dôme! C'est ainsi qu'une nuit, la meute des loups se rassembla sur le rocher du conseil. Akela, leur chef, prit la parole. « Mes frères, Shere Khan rôde tout près d'ici. Mowgli est en danger. Si Shere Khan le trouve, il le fera périr. »
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis.
Ah, le livre de la jungle, extrait de Les chefs-d'œuvre de Disney, c'est en audio, vous retrouvez ça sur le catalogue de chez Audiolib qui l'a produit, ou encore chez Audible ou chez Boule d'oreille, comme vous voulez. Pourquoi pas un classique, une série classique en audio, ça existe, comme Anne, la maison au pignon vert, c'est lu par Catherine Proulx, le même, vous savez, cette petite fille aux yeux pétillants qui se présente à un moment donné à la famille, à Matthew, à sa sœur Maria, mais eux, ce qu'ils voulaient, c'était un petit gars. Et puis, nous arrive cette petite-là, cette petite démone pleine d'esprit. Finalement, ils ne vont pas regretter du tout que ce soit une petite fille qui arrive plutôt qu'un petit garçon, parce qu'elle n'est pas en manque de ressources, cette petite fille-là. Voici le début de Anne, la maison au pignon vert, lu par Catherine Proulx-Lemay.
Comment vous appelez-vous? » L'enfant eut un instant d'hésitation. « Pourriez-vous m'appeler Cordélia, s'il vous plaît? » dit-elle vivement. « Vous appelez Cordélia? C'est votre prénom? » « Non, pas exactement. Mais j'aimerais bien m'appeler Cordélia. C'est un nom d'une si grande élégance. » « Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Si vous ne vous appelez pas Cordélia, vous vous appelez comment? » « Anne Shirley, » balbutia à contre-cœur, celle dont c'était le nom. « Mais, oh, de grâce, appelez-moi plutôt Cordélia. » « Mon nom n'a pas beaucoup d'importance pour vous, surtout si je ne reste que quelque temps. Et puis Anne est un prénom si dépourvu de romantisme. »« Romantisme, fadaise que tout cela, » répondit Marilla, que ce genre de discours n'est mauvais guère. « Anne est un bon prénom, solide, raisonnable, ordinaire. Il n'y a aucune raison d'en avoir honte. »« Oh, je n'en ai pas honte, » expliqua Anne. « Seulement, je préfère Cordélia. J'ai toujours imaginé que mon nom était Cordélia, du moins depuis quelques années. » Quand j'étais jeune, je m'imaginais que c'était Géraldine. Mais maintenant, je préfère Cordélia. Mais si vous m'appelez Anne, de grâce, appelez-moi Anne avec un E à la fin. Quelle différence la fait-il, la façon dont on l'écrit? S'enquit Marilla, qui avait de nouveau son sourire un peu éraillé, tout en préparant le thé. Oh, mais ça fait toute la différence! Ça a tellement meilleure apparence! Quand vous entendez prononcer un nom, est-ce que vous ne pouvez pas vous l'imaginer dans votre tête? Tout comme s'il était imprimé? « Je peux, moi. Et A-N-N me semble horrible, alors que A-N-N-E a une allure autrement plus distinguée. Pourvu que vous ne m'appeliez Anne avec un E, je ferai un effort pour ne pas exiger qu'on m'appelle Cordélia. »« Très bien, d'accord. Et maintenant, Anne avec un E, est-ce que vous pouvez nous dire comment on a commis cette erreur? Nous avons demandé à Madame Spencer de nous ramener un garçon. Il n'y avait pas de garçon à l'orphelinat? Oh si, il y en avait même énormément. » Mais Madame Spencer a mentionné très clairement que vous vouliez une fille d'environ 11 ans. Et la directrice a dit qu'à son avis, je ferais l'affaire. Vous ne savez pas à quel point j'étais enchantée. J'étais tellement joyeuse que je n'en ai pas dormi de la nuit. « Oh !» ajouta-t-elle d'un ton de reproche en se retournant vers Matthew. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit à la gare que vous ne me vouliez pas? Et pourquoi ne m'avez-vous pas laissée là? Si je n'avais pas vu le chemin blanc des délices et le lac au miroir, ce ne serait pas aussi difficile ?» « Juste ciel, de quoi parle-t-elle ? » demanda Marilla, fixant Matthew droit dans les yeux. « Elle parle simplement d'une conversation que nous avons eue en cours de route, » fit Matthew à toute vitesse. « Je vais rentrer la jument, Marilla. Que le thé soit prêt quand je serai de retour. » « Est-ce que Madame Spencer a amené quelqu'un d'autre à part vous ?» poursuiva Marilla une fois que Matthew fut sorti. « Elle a pris Lily Jones pour elle-même. Lily n'a que 5 ans, mais elle est très belle. » Elle a des cheveux bruns noisette. Si j'étais très belle, et si j'avais des cheveux bruns noisette, vous me garderiez? Non, nous voulons un garçon pour aider Matthew aux travaux de la ferme. Une fille ne nous serait d'aucune utilité. Enlevez votre chapeau, je vais le poser avec votre sac sur la table du couloir. Anne, docile, enleva son chapeau. Matthew rentrait juste à ce moment-là et ils s'installèrent à table pour le souper. Mais Anne n'arrivait pas à manger. Elle picorait distraitement le pain beurré, la confiture de pommes sauvages qu'on avait déposée dans une petite coupe de verre dentelé près de son assiette, mais c'était peine perdue. « Vous ne mangez rien ?» reprocha Marilla d'un ton qui coupait court à toute réplique. Anne soupira. « Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis en proie au désespoir le plus total. Est-ce que vous pouvez manger, vous, quand vous êtes plongée dans les abîmes du désespoir ?»«
Je n'ai jamais été plongée dans les abîmes du désespoir, donc je ne peux rien dire. » rétorqua Marilla.
Vous n'avez jamais... Mais est-ce que vous avez au moins imaginé ce que ça pouvait être?
Non, jamais, Dieu merci.
Dans ce cas-là, je ne pense pas que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. C'est un sentiment fort désagréable, vous savez. Quand vous essayez de manger, il se forme une boule dans votre gorge et vous n'arrivez plus à avaler, même s'il s'agit de caramel au chocolat.
J'ai mangé un caramel au chocolat une fois, il y a 2 ans, et c'était tout simplement délicieux.
J'ai souvent rêvé depuis lors que je disparaissais sous une tonne de caramel au chocolat. Mais je me réveille toujours à l'instant précis où je vais les manger. J'espère que vous ne vous sentirez pas offensé parce que je ne mange pas. Tout est extrêmement bon.
C'est toujours charmant de se replonger dans l'univers de ces séries québécoises comme Anne, la maison au pignon vert, qui existe en livre audio. Lu, vous venez de l'entendre par la comédienne Catherine Proulx-Lemay. Entre fauves, c'est un livre qui est sorti il y a peut-être un an, de Colin Niel, ou Colin Niel, c'est un Français. On est dans les Pyrénées au début avec Martin, qui est un garde-chasse. Un jour, il tombe sur un cliché montrant une jeune femme devant la dépouille d'un lion, et il est déterminé à livrer cette femme en pâture à l'opinion publique. La caractéristique de ce roman, nous dit un lecteur, c'est de bien nous diriger vers des sujets brûlants de l'actualité. Colin Niel tape en plein dans le mille, là où ça va faire mal, là où ça va faire grincer des dents, entre coutumes ancestrales et activités de loisirs de touristes aisés, décriés et sources de conflits. Au moins là, on se trouve plongé au cœur d'un problème complexe qui nous concerne tous dans la mesure où la planète, hélas. Extrait de « Entre fauves » de Colin Niel, lu par Thierry Blanc.
Il avait appris à dénicher ses proies dans les milieux les plus ouverts, sans même un tapis d'herbe pour s'y tenir couché, tirant parti du moindre brouillard pour approcher ses victimes à couvert. Il avait appris l'opportunisme, à tuer pintade, porc-épic, cormoran lorsque manquait le gibier, à s'en prendre aux babouins autant qu'aux outardes, à s'attaquer même aux autres carnivores quand sa survie était en jeu. Le chasseur, c'était lui. Lui qui dictait ses règles. Jamais pris par surprise. Alors, non, il n'allait pas laisser aux hommes cette victoire-là. Il venait de sortir des ombres pour enfin leur faire face, calé dans le sable à quelques mètres d'eux, au pied d'un buisson plein de griffes, ses yeux dans les leurs. Le vent soulevait des nuages de terre, ravivait les senteurs animales, chargées des peurs et des tensions des heures passées. Il les huma avec prudence, attendit son moment, impatient d'en découdre, mais toujours immobile, pour enfin redresser sa silhouette de géant et se jeter sur eux. La douleur le saisit aussitôt, la poitrine tout entière embrasée d'un seul coup. Coupé dans son élan, il bondit au-dessus des pierres comme le font les springboks, l'échine pliée par l'algie, les membres incontrôlables, retomba sur le sol sans plus rien maîtriser, décrivit des cercles fous dans la poussière, l'air de poursuivre quelques démons nichés au bout de sa queue. Des souvenirs vinrent tenter son crâne à l'agonie. Les festins des dernières semaines à l'intérieur des kraals. Les hurlements de ses proies au moment de les achever. Les coups de feu des hommes qui faisaient craquer le ciel lui-même. L'apogée de son existence, aussi. Cette époque révolue où il avait été alpha. Son éviction brutale dont il gardait en lui les cicatrices, creusées dans son orgueil. Les gloires et les défaites sur ses terres de canicule. Les chasses ratées autant que ses plus belles prises. Il détala à coups de pattes violents dans la terre, fuyant vers les alliés pour peut-être y survivre. Quitter ce lieu maudit où jamais il n'aurait dû s'aventurer. Lui qui se pensait si fort titubait de mètre en mètre, les pas moins assurés, chancelant dans la caillasse et dans les pailles cassées. Plus rien d'un roi, plus rien d'un prince. Muscles percés, tremblant, il poussa aussi loin que le pouvait sa carcasse, puisant dans ses réserves, dans son instinct de survie, pour, sans plus pouvoir lutter, s'effondrer sur le flanc.
Identifier sa proie. 15 avril. Martin. Franchement, moi j'ai honte de faire partie de l'espèce humaine. Ce que j'aurais voulu, c'est être un oiseau de proie. Les ailes démesurées, voler au-dessus de ce monde avec l'indifférence des puissants. Un poisson des abysses, quelque chose de monstrueux, inconnu des plus profonds chaluts. Un insecte, à peine visible. Tout, sauf Homo sapiens. Tout, sauf ce primate au cerveau hypertrophié dont l'évolution aurait mieux fait de se passer. Tout, sauf le responsable de la 6e crise d'extinction qu'aura connue cette pauvre planète. Parce que l'histoire des hommes, c'est surtout ça. L'histoire des hommes, c'est l'histoire d'une défaunation à grande échelle, des deuils animaux à n'en plus finir. C'est l'histoire des mammouths, des rhinocéros laineux, des tigres à dents de sabre, des ours des cavernes, des aurochs qui peuplaient l'Europe et que nos ancêtres ont décimés en quelques millénaires. C'est l'histoire des castors géants et des paresseux de 6 mètres exterminés en Amérique après l'arrivée des premiers humains par le détroit de Bering. En Australie, il y a 50 000 ans, c'est l'histoire des kangourous géants, des lions marsupiaux, des diprotodons, de cette mégafaune que plus jamais on ne retrouvera. On le sait maintenant. Chaque fois que nos foutus aïeux ont posé le pied quelque part, ça a été l'hécatombe. La seule différence entre eux et nous, c'est la vitesse à laquelle, aujourd'hui, on est capable de faire disparaître ce qui nous entoure. Pour ça, c'est certain, on est imbattable. 200 espèces de vertébrés éteintes en moins d'un siècle. Aucun autre animal ne peut se vanter d'un tel record.
C'était le frisson du jour, un extrait du livre de Colin Niel, Entre fauves, lu par plusieurs personnes, Thierry Blanc, Charlotte Campana, Alexandre Nguyen et Cyril Romoli. Ne me demandez pas qui a lu quoi, l'âge avec uniquement la voix, c'est un petit peu difficile. Mais rappelez-vous que ça s'appelle Entre fauves et que c'est un livre qui a été salué par tous les critiques d'Europe. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale vacances de Des livres plein les oreilles, réalisés et animés pour vous par Clotilde Seille. Il en reste une que je vais vous présenter la semaine prochaine. Merci à mon ami Mathieu Tessier qui sera également de la dernière. Après, ce sera un petit peu de vacances. Salut tout le monde! N'oubliez pas, le livre audio, c'est une autre façon de lire. Salut!